Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier.
Au sommaire aujourd'hui, cette question, les élections en Israël sont-elles un référendum sur la place de la religion dans la société?
Et c'est sur cette question qu'avait achoppé au printemps les discussions pour la formation d'un gouvernement sur cette question, entre autres, Avigdor Lieberman, l'ancien allié de Benjamin Netanyahou, lui reprochant de faire trop de concessions aux ultra-orthodoxes. Alors l'élection du mois d'avril avait confirmé la domination incontestable de la droite à la Knesset, le Parlement israélien, mais sans départager clairement deux camps qui s'affrontent au sein de cette droite, le camp laïque et le camp religieux. Nous sommes en ligne depuis Israël, plus précisément au nord de Tel Aviv. Il est une heure de plus pour vous, Denis Charbi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Denis Charbi, quelle ampleur ont pris pendant la campagne ces questions de la place de la religion dans la société et dans la politique israélienne, et comment elles ont pris, entre guillemets, chez les Israéliens?
Alors, vous savez, les campagnes électorales sont orchestrées par des appareils, des experts en communication politique qui fournissent à leurs clients des thèmes, des formules qui sont testées en temps réel, un peu comme des hameçons. L'opinion se laisse happer ou non, mort ou non. Et c'est vrai qu'en alternance, les campagnes politiques en Israël tournent soit autour des thèmes sécuritaires, l'intifada, le terrorisme, l'Iran, ou bien des thèmes de société. En avril dernier, le thème qui avait dominé, c'était l'indépendance de la justice, de la Cour suprême, contre le gouvernement des juges, selon la prétention de la droite. Et cette fois, c'est vrai que c'est l'affrontement entre religieux et laïcs sur le modèle de société, sur le modèle de l'État, alors c'est un affrontement qui a de profondes racines, hein. Il remonte à la création de l'État d'Israël, voire à la fondation du mouvement sioniste, hein, sur le rôle, la place, l'impact du judaïsme dans la vie publique, dans la législation. Et il est vrai que s'il y a sur ce thème-là des sujets qui font consensus, l'instauration du samedi comme jour de week-end n'a pas posé de problème. En revanche, c'est vrai que certains thèmes sont, je dirais, en quelque sorte les serpents de mer de la vie politique israélienne. Alors notamment la dispense qu'ont reçue depuis la création de l'État d'Israël, la dispense d'accomplir son service militaire uniquement réservé aux orthodoxes, cette dispense-là. Également la subvention complète de toutes leurs institutions scolaires pour qu'il y ait, sans qu'il y ait d'ailleurs le moindre contrôle sur la formation des professeurs et sur le contenu enseigné. L'interdiction des transports publics, voilà encore un thème qui a été agité durant cette campagne. Donc voilà, c'est véritablement des sujets qui sont montés. Et là, il y a eu effectivement au mois de juillet une conjoncture qui fait que le thème a pris. Pourquoi ? Parce que Netanyahou a limogé deux ministres qui avaient tenté de former une liste qui n'avait pas passé le seuil d'éligibilité, en a nommé de nouveau deux leaders d'un parti religieux très docile, très proche du Likoud, qui ont fait des déclarations, je dirais, tonitruantes et consternantes. Alors, l'un, ministre de l'Éducation, sur le fait qu'il avait lui-même pratiqué des thérapies de conversion des homosexuels. Une autre déclaration d'un autre ministre pour déclarer que la participation des jeunes filles à des unités combattantes affaiblissait l'armée. Le même déclarant que son objectif est un État théocratique et qu'il s'accommode de l'État d'Israël tel qu'il est, un État sécularisé, comme un pis-aller.
Denis Charbi, oui, si ce débat existe au niveau de la vie politique et dans les hautes sphères, il prend aussi dans la société. La vie médiatique israélienne a été rythmée cet été par un feuilleton autour de la question d'un concert que voulaient organiser des ultra-orthodoxes, la séparation des hommes et des femmes. Vous-même, vous êtes professeur à l'université où la question se pose très certainement, des étudiants religieux qui voudraient faire leurs études, mais qui voudraient que les hommes et les femmes soient séparés dans les amphithéâtres. Comment ce débat prend, et notamment à l'université où vous êtes?
Alors justement, c'est vrai que nous sommes dans une situation très paradoxale, c'est que ces mêmes orthodoxes qui, depuis des décennies, étudient la tradition, le Talmud, etc., se rendent bien compte qu'ils sont du coup disqualifiés sur le marché du travail, puisque leur formation antérieure ne leur a pas permis de faire un baccalauréat. Et donc, du coup, on constate depuis quelques années une progression du nombre d'étudiants orthodoxes qui veulent étudier à l'université pour arracher un diplôme et pouvoir être compétitifs sur le marché du travail. Seulement, ils veulent imposer leurs conditions. raison. Car effectivement, ce qui est au cœur, et vous l'avez bien dit, ce qui est au cœur des débats, c'est pas simplement les arrangements entre les partis politiques religieux et le parti de gouvernement, quel qu'il soit, c'est effectivement la question de l'espace public. Comment s'organise l'espace public? Et là, voilà, vous me posez la question sur l'université, nous sommes, nous, dans un véritable dilemme, même s'il y a une majorité qui estime qu'il ne faut pas enseigner à ces conditions-là, entre ceux qui disent il faut favoriser la modernisation et l'éducation de ces orthodoxes qui veulent étudier, et d'autres qui disent non, il n'est pas possible de faire des compromis pareils et d'accepter ce chantage-là. Et donc, alors c'est pas simplement d'ailleurs la séparation entre étudiants garçons et étudiants filles, c'est aussi que les garçons exigent qu'il n'y ait aucune femme qui puisse enseigner. Et là, c'est véritablement empiété, non seulement sur la liberté académique, mais sur, je dirais, les valeurs d'égalité entre hommes et femmes qui préside à la création de l'État d'Israël et au respect de la démocratie comme telle.
Donc la question est, quelle concession faire à ces étudiants, en l'occurrence ultra-religieux, au niveau politique aussi, quelle concession leur accorder? Et Avigdor Lieberman, l'ancien allié de Benjamin Netanyahou, a beaucoup reproché au Premier ministre toutes les concessions qu'il a faites, notamment, vous en parliez, sur la question de la conscription du service militaire. Les religieux ultra-orthodoxes, est-ce que par ailleurs, ils se préoccupent de politique, d'économie, de la question palestinienne? Est-ce que la religiosité détermine une position sur le dossier palestinien?
Eh bien oui, effectivement. Alors, c'est vrai que ce n'est pas un thème central de campagne. On ne verra pas les partis orthodoxes faire campagne sur la question palestinienne, sur le retour à la négociation. Mais il s'est passé également une révolution, une mutation dont on n'a pas assez bien pris la mesure. C'est-à-dire que jusque dans les années 1980, les autorités rabbiniques les plus éminentes déclarait très clairement et très fermement qu'en cas de négociation, il faudrait restituer les territoires parce que la question des territoires n'est pas une priorité pour le judaïsme orthodoxe. Or, depuis une vingtaine et une trentaine d'années, avec la disparition de ces grandes autorités, de ces grandes figures qui optaient pour le compromis territorial, eh bien, aujourd'hui, je dirais que la rue orthodoxe et leurs autorités qui n'ont pas le même charisme que leurs prédécesseurs, eh bien, acquiescent. Et aujourd'hui, se situent, en fait, quand on fait des sondages sur leur positionnement par rapport à la résolution du conflit israélo-palestinien, eh bien, se situent totalement à droite. Et j'ajouterais d'ailleurs que le coup de très habile, qui avait été d'ailleurs celui d'Ariel Sharon à l'époque, donc ça remonte déjà à une vingtaine d'années, a été justement de créer deux localités ultra-orthodoxes au-delà de la ligne verte, et donc du coup a rendu en quelque sorte ces partis politiques eh bien prisonniers de cette nouvelle réalité, à savoir qu'une partie de leurs électeurs se trouve de l'autre côté de la ligne verte. Et donc en ce sens, aujourd'hui, je dirais tout le judaïsme orthodoxe qui était, je dirais, caractérisé par sa modération de peur que la communauté internationale se révolte contre les juifs, c'était ça leur argument fondamental, eh bien aujourd'hui, il se situe, je dirais, même à la droite du Likoud concernant la résolution, concernant le refus de négocier avec les Palestiniens et de maintenir l'intégralité de la Cisjordanie qu'ils appellent, qu'ils nomment la Judée et la Samarie. Donc oui, aujourd'hui, c'est un facteur distinctif. Plus on est religieux, plus on est en général hostile à un règlement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des laïcs qui le sont également.
Avigdor Lieberman, Benny Gantz ont quand même des positions assez dures, notamment sur l'annexion du Jourdain. Avigdor Lieberman, quand il était ministre de la Défense, pour laïque qu'il soit, ne défend pas des positions de dialogue avec les Palestiniens.
Tout à fait. Non. Mais en revanche, encore une fois, la variable religieuse est celle qui permet le mieux de prédire où on se situe autour de cette question-là.
Alors, vous parliez de ces religieux ultra-orthodoxes qui arrivent à l'université et ne souhaitent pas que des femmes dispensent des enseignements. Comment expliquer qu'Ayelet Shaked, cette femme qui aujourd'hui fait campagne à la tête d'une liste de coalition de droite, que cette femme ait l'appui aujourd'hui de religieux, de rabbins nationaux religieux, même si elle essaye de ne pas trop le faire savoir ou de casser cette image-là?
Alors, précisément, parce qu'elle n'est pas la tête d'un parti religieux orthodoxe, généralement défini comme un parti qui ne se définit pas comme sioniste, mais au contraire, elle est à la tête de la formation politique qui représente le sionisme religieux, donc celui qui a accepté la création de l'État d'Israël, non seulement comme un bien, mais comme un devoir, comme un commandement, et donc, et où, je dirais, la question de l'égalité entre hommes et femmes est moins controversée, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu, par exemple, dans ce parti-là, même s'il n'était pas à la tête, il y a toujours eu des femmes députés dans cette liste nationale religieuse, là où dans un parti orthodoxe, par définition, il n'y aura jamais de femmes, ni à la première, ni à la dernière place. Elles sont exclues de la représentation politique. En revanche, bien sûr, les orthodoxes qui, au début du siècle, interdisaient à leurs épouses d'aller voter, bien entendu que depuis 1948, elles vont voter pour permettre à ces partis orthodoxes de gagner l'élection.
Denis Charby, on arrive à la fin de cet entretien. Juste en 5 secondes, s'il vous plaît, est-ce qu'un gouvernement laïque ce serait possible aujourd'hui en Israël?
Tout à fait, c'est l'option peut-être la plus plausible. Un gouvernement d'union nationale entre le Likoud sans Netanyahou et le parti bleu-blanc, avec Lieberman comme chef d'orchestre de cette possibilité-là, de cette option-là politique qui est sur la table, effectivement.
Merci beaucoup, Denis Charby, d'avoir été avec nous depuis le nord de Tel Aviv. Votre livre « Israël et ses paradoxes » est toujours disponible au Cavalier Bleu. Merci à vous.